beau, mais malgré les congés, malgré que un certain nombre aient fait 50 jours de grève et que leurs formes de lutte ont changé, il y a toujours du monde dans la rue. Et il n'y a pas du monde dans la rue que les jours de mobilisation interprofessionnelle. Vous savez, le 13 février, il y a eu des manifestations. Le 14, il y avait la santé. Et le 15, il y avait les saisonniers des remontées mécaniques. C'est ça qui constitue la force de ce mouvement. C'est qu'il y a des mobilisations de façon différente tous les jours.
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT au micro RFI de Pauline Glaise. Fin de ce journal sur RFI, 18h et bientôt 10 minutes à Paris. Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne des actualités culturelles et locales sur Radio G. Alors vous le savez sans doute, c'est pas vraiment un scoop, mais on est jeudi. Et le jeudi, dans cette émission, on parle de cinéma avec D'étoiles plein les yeux, la chronique réalisée par Margot. Rendez-vous en deuxième partie d'émission pour un film où la radio a un rôle clé. Avant cela, nous allons parler de spectacle vivant avec Fille et Soi, un spectacle qui sera bientôt au THV. Je vous en dis pas plus puisqu'on va en parler tout de suite. Et cette émission est animée comme d'habitude par Anne-Lie et j'ai le grand plaisir d'être accompagnée par Marine. Bonsoir Marine.
Bonsoir Anne-Lie, bonsoir à tous.
Je te laisse tout le champ.
Je reviens ce soir pour vous parler d'un autre spectacle qui se joue dans le cadre du festival Jeune Public Zone de Turbulence, dont la première édition se déroulera du 2 au 9 mars prochain au THV, comme vous le savez. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas parler d'une création, d'une première, comme c'était le cas avec Fly Colton Fly, mais d'un spectacle qui tourne depuis plusieurs saisons déjà et qui, à chaque fois, rencontre un accueil très chaleureux. Il s'agit de Fille et Soi, de la compagnie Les Bas Bleus, que vous pourrez donc découvrir au THV le 4 mars à 19h. C'est un spectacle de théâtre, marionnettes, théâtre d'objets, théâtre d'ombre, et oui, tout ça à la fois. Un spectacle pluridisciplinaire donc, et d'utilité publique, pour tout public à partir de 5 ans. D'utilité publique, oui, parce qu'il interroge l'image des filles, des femmes, des princesses dans les contes, et s'amuse de façon très intelligente et subtile à défaire tous les stéréotypes, toutes les injonctions faites aux filles dès le plus jeune âge. Est-on vraiment obligé d'attendre le prince charmant pour être heureuse, d'être belle? Qu'est-ce que la beauté d'ailleurs? Qu'est-ce que la féminité, la vieillesse? Et si au fond on essayait tout simplement d'être soi-même et de s'accepter? Ce sont toutes ces questions que Séverine Coulon, metteur en scène et comédienne, a choisi de porter sur scène. Pour trame narrative, elle a choisi un album jeunesse de Louise Duneton, artiste illustratrice, dans lequel trois contes emblématiques sont réécrits et transformés. Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d'âne. Séverine Coulon, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler de cet album et nous dire pourquoi il vous a particulièrement séduite?
Ah oui, bien sûr, c'était une vraie découverte. Je ne connaissais pas Louise Duneton et j'ai appris grâce à cet album, enfin je l'ai rencontrée grâce à cet album. Et il faut savoir que c'est devenu une collaboratrice de Fuy et qu'on travaille même actuellement ensemble sur une nouvelle création. Et pour en revenir à la question, cet album... Voilà, je l'ai découvert par hasard et en fait Louise a décidé dans cet album de prendre à chaque dans chaque conte le point de vue de deux personnages, en priorité des personnages féminins. C'est-à-dire par exemple que dans Blanche-Neige, on assiste à la relation très particulière entre Blanche-Neige et sa belle-mère. Mmh. Voilà, par exemple. Et donc j'ai été séduite parce que les contes sont donc réinventés et réaménagés. Et ce qui est passionnant, c'est que, non pas actualisé, mais peut-être avec des interrogations différentes, finalement, avec un autre point de vue. Et finalement, est-ce que Blanche-Neige ne s'entendait peut-être qu'elle s'entendait avec sa belle-mère, et puis surtout la belle-mère qui ne supporte pas de vieillir, mais finalement ce miroir, à qui, où reste-t-il? Est-ce que c'est pas Blanche-Neige à la fin qui va tomber aussi dans son miroir et qui va lui poser en permanence la question qui est la plus belle? Est-ce que Blanche-Neige va supporter vieillir elle aussi plus tard?
Oui, donc par voilà exemple, sur Blanche-Neige, l'accent est vraiment mis sur la vieillesse justement et le rapport qu'on entretient avec la vieillesse. Est-ce que vous pouvez nous parler des deux autres contes par exemple?
Alors, moi ce qui m'a plu par exemple dans l'album de Louise aussi, il y avait une adaptation de La Petite Sirène. Et là c'est tout simplement une image qui m'a inspirée et qui a même plus qu'inspirée en fait la dramaturgie, ça a même donné l'indication du type de théâtre entre guillemets, c'est-à-dire que cette partie-là est jouée en théâtre d'objets. Je m'explique, en fait dans une des pages de l'album de Louise concernant la petite sirène, on voit la petite sirène qui suspend ses queues de poisson, ses queues de sirène à des cintres, elle est dans son dressing derrière un paravent et elle suspend sa queue de poisson sont des cintres pour enfiler des jambes comme si c'était des bas. Et en fait j'utilise exactement ces accessoires là comme si j'étais dans un dressing avec évidemment rien qui ne me va, mais il peut y en avoir beaucoup des vêtements, rien n'ira.
Donc justement elle essaye de mettre des bas, de se défaire de sa queue de poisson pour plaire au prince.
Exactement,
c'est ça. Et donc du coup tout le rapport qu'on entretient nous avec notre propre corps, et donc vous l'avez dit, cette image là a nourri ensuite votre scénographie et c'est pour ça que vous avez décidé d'utiliser des objets. Il y en a plusieurs dans la pièce, il y a des bas, vous venez de le dire, et des bigoudis, des rouges à lèvres. Qu'est-ce que ces objets représentent pour vous?
Alors c'est ce que j'ai appelé moi c'est ce que j'ai appelé ça des falbalas. Ensuite, souvent les enfants, alors c'est vraiment un spectacle qui s'adresse à tous, hein, vraiment à partir de 5 ans, mais aussi aux ados, aux adultes, à des plus jeunes enfants, enfin pas en dessous de 5 ans, mais à des enfants de 8 ans, 7 ans, etc. Souvent les enfants me disent ce sont des objets de torture. Pas du tout, hein, y a un bigoudi, etc. Pour moi, ils sont une sorte de fuite en avant. Il y a aussi une symbolique de la surconsommation, etc. Et puis, on va rien dévoiler, mais même dans l'histoire ou le conte, parce que c'est plutôt une histoire de la petite sirène, de toute façon, au final, il part avec une autre. Hein. Il faut bien le savoir quand même. Hein. Donc voilà, donc elle a su faire le martyr et finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais bon.
Vous êtes partie de l'album de Louise Duneton et elle a eu une place très importante dans la création du spectacle. Quel regard elle a eu sur la mise en scène? Est-ce qu'elle a eu des choix? Est-ce qu'elle a fait des choix avec vous? Quelle a été sa place?
Alors évidemment c'est toujours assez poreux, c'est plutôt moi qui ai signé la mise en scène, mais elle a été fortement en conseil sur tout ce qui était esthétique. La première partie du spectacle est en théâtre d'ombre avec des marionnettes en fil de fer et en soie, le tissu, la soie donc, et qui sont dessinées vraiment comme à partir des dessins des personnages de l'album de Louise et qui sont peints avec les mêmes encres qu'elle utilise pour son travail en règle générale. Donc elle était vraiment en conseil, elle est arrivée pour du conseil là-dessus, et puis ensuite on a travaillé ensemble. Comme j'étais au plateau, j'avais absolument besoin de quelqu'un qui m'assistait pour faire des allers-retours entre la mise en scène et le jeu.
Et d'ailleurs en parlant de mise en scène, du coup sans rien dévoiler aussi, mais la scénographie est très intéressante puisqu'en fait vous êtes dans une boîte à quatre faces sur laquelle vous pouvez peindre, vous laissez apparaître certaines parties de votre corps. C'est comme si en fait vous étiez enfermé dans cette boîte, enfermé dans un carcan, vous l'appelez vous-même comme ça. Comment vous avez eu l'idée de cette scénographie?
Oui, exactement. C'est pas évident de se souvenir de tout ça, mais je crois qu'au tout début, l'idée c'était... Mais vraiment, ça c'était une idée comme ça, assez... vraiment la petite idée dans la tête. Hein. C'était pas très concret, mais c'était d'avoir un dé, comme un gros dé qu'on lancerait et on raconte une histoire par face. Et ensuite, très vite, il s'est avéré que c'était effectivement un endroit où on était coincé, quoi, quelque chose comme un carcan. Mais c'est aussi la grande baignoire, enfin la sirène, la jeune fille qui joue à la petite sirène dans sa baignoire, et c'est aussi la cabane avec qu'on fait quand on est enfant avec les grands draps blancs de la chambre des parents et voilà ce grand drap blanc qui sert aussi à faire la robe de mariée, etc. Parce que tout est blanc, donc il y a aussi tout ça, c'est l'endroit où on se sent bien et où on se laisse enfermer aussi. C'est quand même très féminin aussi, alors j'imagine que c'est des questions qui se posent aussi aux hommes, mais c'est aussi très féminin ce côté être bien chez soi, que ça soit bien décoré, de se sentir très à l'aise et tout, et en même temps de vouloir séduire et de sortir. Et moi, j'avais envie de parler de cette ambiguïté particulièrement féminine, même si elle nous est pas réservée, du bien-être, de se sentir bien dans son corps, de l'accepter, etc. Et en même temps d'avoir besoin de séduire et du coup de se contrarier en fait, et d'être déchiré entre ces choses qui sont peut-être pas forcément d'ailleurs antinomiques.
Mais vous parlez de féminité, de séduction, vous êtes donc partie des contes. Il y a beaucoup d'études et d'ouvrages qui ont été réalisés pour démontrer l'importance des contes dans la construction psychique de l'enfant. On pense par exemple à la psychanalyse des contes de Bruno Bettelheim. Donc s'ils ont un rôle très important, ils peuvent aussi nous enfermer dans des schémas dont il est ensuite difficile de se défaire, et vous le montrez pendant le spectacle. Est-ce que vous pensez que l'art a un rôle à jouer justement pour défaire ces schémas?
Ah oui, bah oui, moi je le constate quand je joue le spectacle, c'est souvent très fort. On échange à la fois avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Et oui, j'espère bien que l'art a un rôle à jouer. Après, les contes, même traditionnels, font partie de l'art et c'est toujours intéressant. C'est vrai que c'est bien d'apporter aussi d'autres versions. Souvent, les héroïnes sont passives. Les princesses sont passives et ça c'est terrible et voilà, je pense que mais l'art dans le spectacle vivant ou l'art en général peut nous permettre de débloquer la parole et de discuter de ces points de vue là et souvent les gens en fait apprécient ça. J'ai souvent des mamans, peut-être parfois plus des mamans, mais aussi des papas qui me disent merci, on va pouvoir parler avec notre ado, on est coincé là-dessus. J'ai aussi des enfants qui me remercient et je le vois bien parfois juste dans leurs yeux, pas forcément dans les paroles, mais qui parlent de leur corps déjà tout petit, qui disent qu'ils sont pas à l'aise, qui s'aimaient pas parce qu'ils étaient comme ça et qui ont envie de d'être plus libres par rapport à ça. Enfin, il y a plein de oui, je pense que.
Et vous le dites, c'est un spectacle tout public à partir de 5 ans. Vous dites que vous voulez vous adresser à la fois aux filles, évidemment, mais aussi aux garçons. Et on l'a dit, évidemment, aussi aux adultes. Et c'est à ça, d'ailleurs, qu'on reconnaît la qualité d'un spectacle jeune public. Et il est vraiment d'une très, très bonne qualité. C'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, en fait. On est, quel que soit l'âge qu'on a, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture et on s'interroge. Quels sont les retours des adultes et des enfants après le spectacle?
Alors, j'ai très souvent de la part des adultes, enfin pas très souvent heureusement parce qu'il faut aussi que ça soit rare, mais des gens qui viennent bouleverser, une personne comme ça à la fin qui vient bouleverser, mais c'est mon histoire. Alors je sais pas exactement toujours de quoi il parle, mais parfois c'est une femme très belle, très mince, etc. Parce que c'est aussi un spectacle qui parle des princesses qui n'ont pas forcément la même forme que celle qu'on imagine. Mais ça peut être aussi, ça m'est arrivé une fois, c'est très émouvant, un homme très handicapé physiquement, donc il avait vraiment un corps très atypique et qui est venu me dire merci. Donc on a des retours parfois très forts comme ça, très intenses. Et puis il y en a aussi certains ou certaines qui me disent mais moi j'arrive pas à changer, je vois bien que j'éduque mon garçon différemment de ma petite fille. Enfin voilà, il y a plein d'échanges. Ce qui est extraordinaire, c'est que souvent la barrière, le quatrième mur, évidemment, n'existe plus et les gens sont assez à l'aise, particulièrement, je pense, dans les spectacles jeunes publics, pour venir discuter après. Moi, j'apprécie beaucoup ça.
Juste pour les auditeurs, peut-être qui pourraient ne pas savoir ce que c'est que le quatrième mur, c'est juste un mur fictif, en fait, qui séparerait le public des spectateurs. Et là, en effet, il n'y a pas de quatrième mur, puisque l'échange est vraiment, tout à fait bienvenu entre vous et puis le public. Est-ce que vous vous considérez comme une artiste féministe?
Oui.
Et c'est quoi le féminisme pour vous?
Ouais. Par exemple, sur... ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que je m'adresse aux petites filles et aussi aux petits garçons, ça a été un gros questionnement pendant la création. Enfin, juste après, en fait. Pour moi, je me suis pas questionnée pendant la création. Mais après, certaines personnes, assez peu, mais quand même certaines personnes m'ont dit, et ça revient parfois, m'ont dit, est-ce que ça parle aux garçons? Est-ce que ça parle aux hommes? Mmh. En fait, j'étais complètement désemparée face à cette question-là. Et comme souvent, parfois, un petit exercice que font les féministes, mais que tout le monde pourrait faire, si on inverse, en fait. Est-ce que, si on inverse la question, est-ce que des petites filles ou des femmes se posent la question si dans leur film, dans leur série, il y a plus de, est-ce que ça les gêne de voir un héros homme? Eh bien non, parce qu'en fait, nous, on a l'habitude de ne voir quasiment que des héros qui sont des hommes. Les héroïnes sont assez rares en pourcentage, c'est assez flagrant quand on voit les études, justement. Et bizarrement, quand on crée un spectacle qui ne parle que d'héroïnes ou de princesses ou de filles, eh bien, ça interpelle les hommes et les garçons, voire même des femmes qui disent... Ça m'est arrivé une institutrice qui me disait « Mais est-ce que ça va intéresser les petits garçons ?» Et je ne pense pas qu'on se pose la même question dans le sens inverse. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais un engagement féministe de se dire « Mais est-ce que ça marche dans l'autre sens ?»
Et alors, une autre question, vous avez été très entourée pour créer ce spectacle-là, vous vous êtes entourée d'un compositeur, parce que le travail sur la musique et sur la voix est très intéressante, mais aussi vous avez travaillé avec une chorégraphe qui s'appelle Laetitia Angot. Quelle est la place du corps dans votre spectacle ?
Alors, justement, j'avais envie... je pouvais pas parler du corps et de la difficulté de l'accepter sans qu'il soit là et sans qu'il soit présent. Donc, on voit des morceaux de corps, juste des morceaux, hein, je ne suis pas nue, mais des parties, plutôt, c'est plus délicat, des parties de mon corps nues. Et donc, il y avait quand même ce carcan qui est une boîte fermée, avec assez lourde, etc. Pour moi, c'était indispensable de travailler avec une chorégraphe pour trouver la justesse de ce corps dans cet espace. Donc c'était vraiment indispensable, et en fait même quand on ne me voit pas, c'est-à-dire quand je suis dans cette boîte et que j'utilise une partie de la boîte comme écran, c'est-à-dire qu'il y a du théâtre monde, etc. À l'intérieur, on a chorégraphié les mouvements. C'était très intéressant parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut faire attention à ne rien renverser, etc. Et elle m'a fait travailler en chorégraphie même quand on ne me voit pas.
D'accord, tout est vraiment très...
Et j'avais besoin de cette personne, de travailler avec elle pour aussi libérer quelque chose, parce que voilà, je me livre assez sur scène, j'ai quasiment pas de costume, etc. Donc c'était important de construire le mouvement, même s'il a l'air évidemment maintenant complètement naturel, mais pour me détacher d'une voilà, très certainement pour détacher le personnage de la personne, ou en tout cas le personnage de la comédienne et la comédienne de la personne.
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous jouez un personnage qui s'appelle Anne. Il y a d'ailleurs une voix off qui fait parler ce personnage-là, et qui, pour essayer d'être le mieux dans sa peau, essaye de s'identifier à plusieurs héroïnes. Et puis à la fin, elle s'émancipe un petit peu de tout ça, de toutes ces images d'héroïnes, et elle accepte d'être dans son propre corps. Et même dans la scénographie, on comprend qu'elle s'émancipe, puisque votre personnage sort de cette boîte, de ce carcan. Et ça, c'est toujours un moment très émouvant. Et juste pour finir, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que la féminité pour vous ?
Je sais pas du tout. Je pense que c'est trouver sa justesse. Je pense que c'est vraiment ça, trouver sa justesse, l'endroit où on est bien. Enfin, justement, pour revenir juste un peu avant sur ce que vous disiez, Anne essaye la peau des autres. Mais qui n'a pas fait ça? Qui ne s'est pas dit, mais il faudrait que je sois comme ça? Ah, mais si je me donnais ce style-là, si j'étais comme ça? Enfin, on se cherche tellement longtemps. Et en fait, j'avais l'utopie dans ce spectacle de me dire, si je faisais gagner un petit peu de temps aux petits garçons, aux petites filles. Et peut-être que c'est ça, la féminité, c'est de trouver exactement l'endroit où on se sent bien. Alors, je ne dis pas que ça existe, hein. Je ne dis pas que ça, c'est quelque chose qui s'atteint facilement, mais peut-être tendre vers ça, vers une sorte de gentillesse avec soi-même, une réconciliation.
Moi, je me demandais aussi dans Fille et Soi, donc c'est un spectacle qui prend sa source dans des contes, dans des personnages féminins très connus, et vous y abordez des stéréotypes ou des injonctions qui peuvent déboucher sur des choses violentes ou en tout cas contraignantes pour les personnes. Pour autant, le spectacle, on l'a dit, on peut le voir à partir de 5 ans. Donc vous l'avez imaginé aussi pour ce jeune public. Et je me demandais comment vous avez fait pour ne pas forcément simplement remettre en jeu cette violence ou ces injonctions, mais aussi les mettre à distance et éventuellement la désamorcer.
Alors, moi, je travaille en règle générale avec l'image. C'est-à-dire que je me pose toujours la question de est-ce que ce que je dis ou ce qui est écrit ne peut pas être joué avec de l'image. Et déjà, ça désamorce énormément, en fait. Par exemple, plutôt que de parler de ces problématiques de poids, peut-être qu'on peut utiliser un maître de couturière. Et là, ça parle à tout le monde. Et ce maître qui grandit comme l'aiguille sur le pèse-personne qui monte, ou qui n'est pas assez grande. Enfin, voilà, ça ne va jamais. De toute façon, on n'est jamais au bon endroit. Et voilà un exemple de mise à distance.
Ouais, par des objets, de la mise en scène, de la médiation.
Des objets et de l'image. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui parle à tous, aux adultes comme aux enfants, et qui rend accessible aux enfants. Ça veut dire que... On peut dire la même chose aux adultes et aux enfants grâce à l'image, alors qu'avec les mots, c'est pas toujours si évident.
Et d'ailleurs, ça, c'est important de dire qu'en effet, le spectacle est très visuel et on retrouve certains des personnages du conte de Louise sur scène. Vous êtes vraiment, c'est vraiment une adaptation de l'album. En tout cas, merci
tout
beaucoup.
Et puis, les personnages de Louise sont des personnages féminins, ils ont des poils et. Je ne sais pas si on les voit sur scène, mais il y en a quelques-uns aussi.
Ce sont des humains.
Ce sont des humains, exactement.
Merci beaucoup Séverine Coulon, on va devoir s'arrêter là, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce soir. Et du coup, que vous soyez accompagné d'un enfant, d'amis, de collègues, ou que vous soyez seul, venez découvrir ce très beau spectacle qui fait du bien, parce que quel que soit notre âge, on l'a dit, on s'interroge, et c'est évidemment très important de s'interroger. Donc rendez-vous le 4 mars à 19h au THV, le tarif est unique à 6€. Et puis retrouvez tout le reste de la programmation sur le site du THV. Merci beaucoup.
Merci énormément.
choisi de vous faire entendre Serious Flowers de Molly Nelson, même si on l'écoutait en entier. On va finir cette émission un peu en retard, mais ça n'est pas grave. C'est l'Oreille Curieuse sur Radio G, la quotidienne culturelle et locale. Et maintenant, c'est l'heure de D'étoiles plein les yeux, la chronique cinéma. Bonjour Margot.
Et bonjour Annie, bonjour à toutes et tous. Me revoici à ce micro pour vous présenter un film à partir de quelques scènes. Alors mercredi dernier, le 13 février, c'était la journée mondiale de la radio. Alors ce soir, j'ai choisi de vous parler d'un film dont l'action démarre avec un communiqué radiophonique de la plus haute importance. Il s'agit de
Darat, saison sèche,
du réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun, qui a reçu le prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 2006. Le cinéaste a grandi dans un pays en proie à des affrontements armés interminables, dus à une succession de dictatures, coups d'État, répressions et rébellions. Et c'est ce qui nourrit son œuvre cinématographique, et notamment le film dont nous allons parler.
À l'origine de Darat, il y a la vie quotidienne au Tchad. Une vie hantée en permanence par cette guerre civile qui dure maintenant depuis plus de 40 ans et qui a vu beaucoup de victimes. Des victimes silencieuses, à qui personne ne pense parce qu'aucune justice n'a été rendue. Les bourreaux paradent en toute impunité. J'ai voulu, à travers mon film, tendre un miroir à toute la communauté tchadienne pour essayer de réfléchir sur cette violence qui traverse la société depuis si longtemps.
C'était donc le réalisateur Mahamat Saleh Haroun qui revenait sur les origines de son film Darat. Alors, Darat saison sèche commence dans une petite ville rurale du Tchad,
où l'on attend les décisions un peu comme des messages divins en écoutant la radio. Un monde où l'on est spectateur de sa propre vie,
explique le réalisateur. Le premier personnage à l'écran, c'est un vieil homme aux lunettes noires qui masque ses yeux aveugles, à l'image peut-être d'un pays qui refuse de regarder en face son passé. On entend son bâton tapant le sol au début du premier extrait que nous allons écouter maintenant, la toute première scène du film. Un décor très simple, la cour d'une case fermée par une porte de tôle bleue.
Atim !
Le vieil homme appelle son petit-fils.
Atim ! Atim Indouel !
Les cris du grand-père sont maintenant hors champ et l'image donne à voir des jeunes filles qui passent en riant. Un autre plan, plus large, dans une rue assoupie, des hommes attendent sous un arbre. Plan encore plus large pour saisir le village dans son ensemble, couleur sable, bordé de palmiers. Cette succession de plans de plus en plus vaste semble indiquer qu'en partant d'une histoire individuelle, le film vise un propos plus universel. Voici Atim, jeune homme vif qui se presse dans la rue. Il court rejoindre son grand-père dont il entend l'appel. La caméra accompagne sa course fluide dans les rues et les ruelles. Atim passe à côté d'un groupe d'hommes assis autour d'une radio. La caméra quitte le garçon et s'attarde sur les hommes.
Vous êtes à l'écoute de la radio nationale. Tout le monde attend aujourd'hui les résultats des travaux de la commission Justice et Vérité. Dans 5 minutes exactement, le président de cette commission s'adressera à la nation.
Plan sur des grappes de femmes et d'enfants, à l'écoute eux aussi de la radio. De retour dans la cour du vieil homme, en plan fixe, où la caméra attend Atim, face à la porte bleue.
Atim, où est-ce ? Atim !
Le jeune homme arrive. Il rejoint son grand-père, comme aimanté par le vieil homme.
Ils vont annoncer la nouvelle à la radio.
Atim et son grand-père s'assoient autour d'un vieux poste.
De la commission Justice et Vérité. Citoyennes et citoyens, la commission Justice et Vérité a enfin terminé ses travaux relatifs aux crimes commis pendant la guerre civile. Au cours de ces travaux qui ont duré 6 mois, nous avons interrogé 200 criminels de guerre, entendu plus de 600 victimes et témoins. La commission lance un appel solennel pour sortir du cycle de la guerre qui mine notre pays depuis plus de 40 ans. En conséquence, la commission Justice et Vérité a décidé une amnistie générale sur l'ensemble du territoire.
Pendant le discours radiophonique, la caméra a rattrapé en gros plan les regards pensifs et concentrés des deux hommes immobiles sur la natte. Après avoir éteint le poste, le jeune homme lève lentement la tête vers son grand-père silencieux et prononce avec douceur ses premiers mots.
Winty, tu vois le quelqu'un qui kiffe.
Grand-père, comment tout ça s'est passé?
Car l'amnistie, c'est comme mettre un énorme couvercle sur une marmite de bouillante. L'eau continue à bouillir en dessous et les questions à se poser. Des questions qui restent en suspens, comme celle d'Atim à son grand-père.
Mais cette amnistie générale au Tchad, elle s'est réellement produite?
Non, pas du tout. C'est une invention scénaristique du réalisateur qui nous propose une fable politique sur le mode « on dirait que ». Il s'en explique au moment de la sortie du film.
L'Afrique s'enfonce parce qu'elle ne trouve pas l'énergie pour régler les problèmes uniquement que par l'impunité. Et l'amnistie politique est une forme d'impunité. Dans Darat, j'invente une amnistie qui n'a pas été prononcée au Tchad pour montrer que, par défaut, on se fait justice soi-même puisque l'amnistie nie les choses.
Et en effet, plus tard dans le film, le grand-père confie à Atim un revolver et lui confie une terrible mission. Retrouver Nassara, l'assassin de son père pendant la guerre, et l'exécuter. Écoutons à présent un nouvel extrait. Atim a quitté son village pour rejoindre la capitale du Tchad, N'Djamena, où habite Nassara. Plan fixe sur une route bitumée dans le désert, au bord de laquelle s'est arrêté un véhicule tout-terrain qui assure la liaison avec la capitale. Un nouveau passager veut monter à bord, un militaire bedonnant. L'habitacle est déjà bien rempli, mais tout le monde se sert et le militaire s'assoit près de la porte arrière, en face d'Atim. Lourdement chargé, le véhicule démarre lentement. Un vieil homme récite ses prières et une jeune femme calme son bébé. Atim et le militaire se toisent. Regard buté d'Atim, filmé en gros plan.
Cholo, tu veux ma photo? Idiot, parle! Je t'ai posé une question, non?
Plan très serré sur le visage hostile du militaire, champ contre champ tendu. Le militaire dégaine une arme dont le canon, en gros plan, est pointé face à la caméra, c'est-à-dire sur le visage d'Atim. Expérience glaçante pour le spectateur. Contre-champ sur le visage d'Atim qui ne baisse pas les yeux.
Tu as peur, hein?
Le regard déterminé d'Atim, toujours en gros plan, affirme le contraire. Le jeune homme détourne la tête et regarde par la fenêtre.
L'assassin de mon père n'a jamais été inquiété. Il vit en toute liberté. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Il a été tué avant ma naissance. C'est pourquoi on m'appelle Atim, l'orphelin.
La caméra montre le paysage qui défile par la fenêtre, plan suggestif sur ce que voit Atim des abords de la capitale. Alors, Darat saison sèche peut se voir comme un western citadin, sans cigare ni musique d'Ennio Morricone. Une sorte de...
Règlement de compte à N'Djamena.
La tension est présente dans chaque plan, et le film est construit comme une incessante confrontation entre deux pôles, dont l'ampleur se déploie avec le développement de l'intrigue. Au regard de ces deux premiers extraits, on peut déjà noter la confrontation entre le monde rural et la capitale, entre la mémoire des pères et l'oubli prôné par l'amnistie. Nouvel extrait et nouvelle confrontation en perspective. Arrivé à N'Djamena, Atim a fini par retrouver Nassara qui est devenu boulanger. Après l'avoir suivi dans les rues jusqu'à sa mosquée, Atim est décidé à en finir avec lui. Il l'attend un matin devant sa boulangerie. Gros plan sur le visage attentif du jeune homme qui mâche de la gomme. La caméra descend lentement jusqu'à ses mains qui tiennent, cachées dans la poche de sa veste, le revolver confié par le grand-père. Et l'on repense au militaire du bus. Comme en réponse aux mains crispées sur l'arme, plan moyen sur la double porte bleue en tôle qui ferme la boulangerie de Nassara. Les enfants attendent sagement assis devant les portes. Un homme d'âge mûr, dont le cou est protégé par un foulard, émerge à l'ouverture du portail, Nassara. Les enfants se lèvent avec précipitation, tendent des gamelles. L'homme leur fait signe de rester calme et sort d'un grand sac des morceaux de pain qu'il leur distribue. Atim rentre dans le champ. Au centre de l'image et du groupe d'enfants, Nassara lève les yeux et l'observe, alors qu'il le reconnaît. Les deux hommes avancent l'un vers l'autre. Souffle du sable. On attend le duel classique des westerns. Gros plan sur le visage d'Atim tendu vers celui de Nassara qui rapidement entre dans le cadre. Et au centre de l'image, le vide entre ces deux profils qui se toisent silencieusement. Un espace à la fois ténu et pourtant abyssal. Les deux hommes se jaugent, leurs visages se tournent autour, la caméra reste fixe, imprégnée par l'attention. Nassara finit par approcher un appareil près de sa gorge.
Qu'est-ce que tu veux à la fin ?
La voix métallique renforce l'imprévisibilité du personnage.
Palomone,
répond le garçon. En évoquant cette scène, le réalisateur de Darat Saison Sèche, Mahamat Saleh Haroun, raconte
« J'ai conçu le décor de la boulangerie de Nassara comme une scène de théâtre. Cette petite boulangerie est une arène, un lieu de confrontation. Le rapport des deux personnages principaux passe par l'intensité de leur rapport physique, la manière dont ils se croisent, dont ils se frôlent, dont ils se flairent. »
Et ce duel est magistralement filmé en plan séquence, la caméra restant fixe et très proche des visages des protagonistes, comme pour en capter la moindre variation. C'est une nouvelle confrontation, celle de deux inconnus en apparence, Atim et Nassara, et à travers eux, celle de la victime, par ricochet du moins, et celle du bureau et du bourreau, celle de la guerre et des conséquences des combats.
Il y a aussi l'écho des portes bleues, celle qui ferme la maison du grand-père au début du film et celle devant la boulangerie de Nassara.
Effectivement. Et cet écho confronte à son tour deux pôles, la volonté de vengeance d'un grand-père devenu aveugle et la contrition d'un ancien combattant qui a perdu ses cordes vocales, la haine contre les remords. Alors écoutons à présent un dernier extrait. Puisqu'Atim refuse le pain tendu par Nassara, celui-ci lui propose de devenir son apprenti boulanger. La scène démarre dans le fournil de la boulangerie et est construite comme un duel en trois temps.
Première phase, l'observation.
La caméra montre en gros plan les mains d'Atim qui tranche maladroitement les morceaux de pâte. Puis plan sur le visage dégoulinant du jeune homme, épuisé, qui lève les yeux. Plan serré sur Nassara qui l'observe et secoue la tête, pas encore satisfait de son élève. L'échange se fait à nouveau par les regards, et seul le son de la machine à pétrir, à défaut de l'image, nous rappelle le décor qu'aucun plan large n'a présenté. L'observation se poursuit silencieusement. Nassara vient se placer derrière Atim, comme pour guider ses gestes, mais finalement, à l'image de leur duel devant la boulangerie, les deux hommes se tournent autour, se jaugent et s'évaluent. Et comme dans la scène précédente, la caméra reste fixe et serrée sur les visages.
Fabriquer du pain demande amour et attention. Sans amour, il n'y a pas de bon pain, tu comprends ?
Demande le boulanger. Atim le regarde pensivement, comme s'il réfutait la loyauté du propos. Ellipse.
Deuxième phase, la confrontation.
Nassara sort du four une première plaque de pain doré qu'il dépose derrière lui avec assurance. D'un geste silencieux, il demande à Atim de s'occuper des suivantes. Le garçon s'exécute avec difficulté, il n'a pas l'habitude. Les plaques sont très longues et peu maniables. Nassara le laisse se débrouiller et finit par l'aider quand la plaque manque de tomber. Le duel des plaques a clairement tourné à l'avantage de l'aîné.
Nouvelle ellipse, fin du duel.
Atim et Nassara sont assis à côté des pins.
Ça te plaît ?
Atim hoche la tête.
Alors je ferai de toi un grand boulanger.
Nassara tend la main à Atim, qui la serre de mauvaise grâce, aux grandes dames du boulanger. Le réalisateur raconte.
J'ai tenu à filmer mes personnages en plan serré, à traquer les expressions. Ce qui se passe entre eux est de l'ordre de l'indicible, de la confrontation animale. Cela passe par le regard, l'odorat.
Et cette nouvelle confrontation, qui n'est pas la dernière, loin de là, est intense, car elle oppose à présent un maître et son apprenti. Un jeune qui a la vie devant lui et un homme mûr en quête de rédemption pour la fin de sa vie. Le passé et l'avenir. Il n'est pas anodin qu'elle se situe dans le fournil d'une boulangerie, les mains dans le pain. Car comme l'explique le réalisateur...
Le travail, notamment manuel, rapproche les hommes lorsqu'il est l'occasion d'une transmission. Le travail a un rapport avec la filiation. Il faut bien accepter de léguer le savoir-faire. Le moment où Atim réussit son pain est le moment où il bascule. Il devient un autre, car le travail le libère. Il est très important de réussir quelque chose par soi-même.
Et c'est bien là le projet de Nassara. Comme le grand-père d'Atim, il propose une mission au jeune homme. Mais ce qu'Atim doit faire pour lui consiste à fabriquer et non pas à détruire. Alors, on le devine à présent, toute l'histoire de Darad Saison Sèche tient en une confrontation matrice et insoluble. Celle qui oppose un père disparu avant la naissance de son enfant à un père choisi par l'enfant, qui accepte le cadeau de la transmission. Et pour grandir, Atim devra faire son choix.
Don't let it do this very sunny monster time. Enfin, tu trouvais les bienfaits de vie sans âme.
Darad Saison Sèche, réalisé par Mahamat Saleh Haroun, est sorti en salle en décembre 2006.
Le film est disponible en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes VOD et en DVD. Éditeur Pyramide Vidéo. Je vous recommande notamment le making-of qui accompagne l'édition du film, Chronique d'une saison sèche par Franck Verdier, dans lequel on apprend les péripéties du tournage du film au Tchad, alors que la guerre civile reprenait.
On a volé 2 minutes au timing officiel de l'oreille curieuse, voire bientôt 3. C'est la fin de l'émission, vous pouvez la retrouver en intégralité sur le site de Radio G à la page de l'oreille curieuse avec les podcasts où vous retrouvez aussi toutes les infos sur les sujets dont on parle chaque jour. On se retrouve lundi à 18h10 et on parlera art visuel avec Léa Desmousseaux et Gaël Darras qui sont en résidence actuellement au collectif Blast. Voilà pour vous donner envie de nous écouter lundi. Je vous laisse avec la programmation musicale de Radio G quelques minutes et à 19h, vous allez retrouver Solidaire Monde. Passez une très bonne soirée, un bon week-end.
FM.